Vous êtes sur RTL.
Et sur Auchan.fr.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, rapporteur de la mission d'information sur les services publics face à la radicalisation.
Oui, vous vous êtes inquiété, Éric Diard. Bonjour, Éric Diard.
Bonjour.
De la porosité des services publics face au coup de boutoir des radicaux dans ces mêmes services publics. On va y revenir, comment prévenir. Mais d'abord, une question pratique, si je puis dire. Est-ce que, si vous étiez maire, vous auriez pris un arrêté anti-burkini, vous ?
J'ai été maire et j'avais pris un arrêté anti-burkini, puisque j'étais maire de la commune de Saussay-les-Pins, donc sur la côte bleue, dans les Bouches-du-Rhône, et j'avais pris un arrêté anti-burkini, premièrement parce que le burkini pose des problèmes, premièrement, ce burkini existe depuis peu, c'est pas une tradition ancestrale ou une tradition religieuse, deuxièmement, il pose des problèmes d'hygiène. Moi, si je vais à la piscine et que je mets un short de surf, je me fais virer. Il pose des problèmes de sécurité, c'est ce que me disaient les sauveteurs. C'est-à-dire, si vous vous noyez tout habillé, ben, vous pesez beaucoup plus lourd que lorsque vous êtes en maillot de bain. Et il pose des problèmes d'atteinte à la laïcité.
Mais quand ces femmes disent, en l'occurrence, hein, on en parle, le débat s'était enflammé en 2016, mais c'est reparti après que des femmes en burkini, justement, ont fait éruption dans une piscine municipale de Grenoble. Quand elles disent qu'elles se battent au nom de l'égalité, de la liberté, de s'habiller comme elles le veulent, que dans le fond, la religion n'a rien à voir là-dedans. Bullshit ou argument recevable ?
Non recevable, c'est pas un acte de désobéissance civile. Moi, je pense que c'est un acte d'obéissance religieuse. Il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles.
Vous en êtes sûr. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a demandé hier au gouvernement de lever l'ambiguïté sur le statut du burkini. Où en est-on ? Est-ce qu'il faut une loi ?
Je me demande s'il ne faudra pas légiférer, parce que je vous invite à regarder le guide de la laïcité qui a été sorti par le ministère des Sports au mois de mai, et il y a une fiche sur le burkini où je trouve que le ministère est très ambigu. Il dit il faut discuter avec la personne, il y a quand même la liberté de conscience religieuse, il faut engager un dialogue et lui parler des problèmes d'hygiène. Voilà. J'ai trouvé cette fiche très peu claire.
Oui, très peu claire, mais vous savez que la loi, c'est compliqué. On voit bien, par exemple, avec la burqa, ça a été extrêmement difficile de trouver des arguments juridiques qui soient acceptables par le constituant, comme on dit. Mais c'est très compliqué, la loi, vous l'interdisez au nom de quoi ? Au nom de quoi peut-on interdire un vêtement, dans le fond ?
Moi, ce que je vous expliquais, il y a déjà par la loi, à partir du moment que vous vous baignez, je vous dis, il y a des impératifs d'hygiène et
oui,
de sécurité.
Oui, c'est très fragile. Hein, si un jour on vous... Enfin, on ne va pas passer toute l'émission là-dessus parce que je voudrais parler de votre rapport, mais il y a un jour, on pourra faire la preuve qu'il n'y a pas de problème d'hygiène par des nouvelles technologies et ni de problème de sécurité. Donc, ce jour-là, l'argument sera de facto très fragile.
Bon, ensuite, je vous cite, moi, je suis un garant de la laïcité et moi aussi, je me battrai, je me dis, mais pourquoi on ne veut pas que je sois en short à la piscine municipale.
Mais par exemple, dans votre rapport, vous dites qu'il ne faut pas confondre la radicalisation et les provocations. Donc pour vous, ce burkini, ça n'est pas une provocation, c'est un début de radicalisation rampante ?
Je ne sais pas, ça peut être... Vous avez raison de le dire, il y a trois points. Il y a des atteintes à la laïcité, ce n'est pas de la radicalisation. Vous avez du communautarisme et du prosélytisme qui existent dans les services publics, mais ce n'est pas de la radicalisation. Mais enfin, on se doit, au nom des services publics, du respect de la laïcité, de lutter quand même. Et ensuite, vous avez la radicalisation, où là on bascule vers une radicalisation religieuse et violente. Ces trois points, parfois, ce sont des passages obligés, parfois sont très cloisonnés. Il faut savoir qu'un musulman rigoriste, Madame Martichoux, qui refusera de vous serrer la main, pour autant, ne passera pas à l'acte. Par contre, un musulman ou un musulman non pratiquant, qui boit de l'alcool, qui va en boîte de nuit, peut-être se fera sauter ou fera un attentat terroriste.
Donc il faut trouver, c'est là où on met le curseur, qui détermine une forme de danger de passage à l'acte. C'est quand la rupture avec les règles conventionnelles paraissent
oui,
assez claires, dans
oui,
le fond.
Oui, mais je vous rappelle que quand même, la neutralité du service public, dans un service public, on se doit la neutralité, donc le prosélytisme, les signes distinctifs trop importants sont à bannir.
Donc, vous avez mené cette mission d'information, Éric Diard, sur les services publics face à la radicalisation, avec un objectif, comment prévenir et détecter. C'est un rapport fourni, une cinquantaine d'auditions, 35 préconisations, sauf erreur. Pour être clair, il s'agit de la radicalisation islamiste.
Oui.
Vous ne le dites pas dans le titre, pourquoi ?
Nous le précisons quand même, on le précise on fait une conférence de presse à 11h et nous donnons une petite note où nous disons il s'agit principalement ici de radicalisation islamiste, mais il peut y avoir d'autres radicalisations et nous avons souvent posé aux personnes auditionnées s'ils avaient d'autres types de radicalisation, c'est très à la marge, des fois une ultra-droite. Et on posait la question, est-ce que le complotisme va pas aboutir à une radicalisation ? C'est une question qui sera peut-être intéressante dans le futur.
Dans l'introduction, vous posez d'emblée un constat qui est plutôt rassurant, franchement, ça peut balayer certains fantasmes. Vous dites les forces de sécurité, la justice, l'éducation nationale sont, je reprends votre mot, sous contrôle.
Je pense que les attentats de 2015, et c'est ce qu'on a entendu à travers les auditions, étaient quand même une prise de conscience. C'est-à-dire, si les services publics disaient on peut pas, on ferme les yeux, ils ont dit on peut plus fermer les yeux, faire la politique de l'Autriche, il faut agir. Et ces différentes institutions ont agi, ont prévenu, les renseignements ont fait remonter les informations, ont pris des dispositions. Donc, ce n'est pas globalement étanche, complètement. Mais des efforts sont faits et, j'allais dire, la radicalisation est à la marge. Et l'éducation nationale, il y a quand même encore une véritable problématique, mais la culture du renseignement et de la remontée des informations se fait. Il y a des référents radicalisation dans chaque académie. Donc, ils se mettent au diapason pour cela.
Donc, à contrario, il y a les mauvais élèves. Il y en a quand même beaucoup. On va commencer par, dans le domaine de la sécurité, toujours les prisons. Et plus précisément, si vous voulez bien, les surveillants de prison. Vous qui êtes dans les Bouches-du-Rhône, vous connaissez bien ce cas des barbus des Baumettes. Racontez-nous.
Oui, les barbus des Baumettes étaient
des surveillants.
Des surveillants, fichés FSPRT, donc prévention de radicalisation et du terrorisme, et qui agissaient dans les années 2016 au niveau des Baumettes. Alors, FSPRT, c'est pas un délit.
C'est un fichier,
vous pouvez être fiché parce que c'est pas vous qui êtes radicalisé, mais votre mère, votre père, votre frère, etc. Donc, ils étaient surveillés.
Les dispositifs. Mais quoi, ils faisaient la prière avec les détenus?
Ils avaient des relations avec les détenus, ils restaient qu'entre eux. Ils avaient des pratiques religieuses ostensibles et ils ont été dispersés.
Mais pourquoi ils ne sont pas révoqués dans ces cas-là? Est-ce qu'il faudrait des mesures pour avoir les moyens de les révoquer?
Pour les révoquer, il faut avoir nous sommes dans un pays de droit, il faut avoir des éléments tangibles. Ils n'en avaient pas, ils ont été dispersés géographiquement. Alors aujourd'hui, la problématique qui se passe quand même, c'est qu'il y en a trois qui risquent d'être regroupés dans un établissement pour mineurs, ce qui me semble une hérésie.
Dans vos propositions, donc, la révocation, c'est compliqué tant qu'on n'a pas de preuves, dites-vous. Dans l'état de notre droit, vous ne le regrettez pas, ça?
On arrive, je veux dire, moi je vois les services, ils trouvent des preuves, ou alors parfois il y a des faits connexes qui permettent d'aboutir à la révocation. Donc tout est fait pour trouver des preuves tout autour de cet individu qui parfois se radicalise, mais a également d'autres mauvais côtés.
Vous dites qu'il faut permettre le licenciement d'un salarié protégé, radicalisé, sans autorisation préalable d'un inspecteur du travail. C'est une de vos recommandations. Protégé, c'est-à-dire syndiqué. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans les services publics, des personnels qui prennent une couverture syndicale pour pouvoir continuer à faire du prosélytisme sans être inquiétés?
Alors, ma réponse est oui, mais je vous rajoute, pouvoir licencier sans l'avis, les personnes qui ont un avis d'incompatibilité, ça veut dire qui sont passées au criblage, c'est-à-dire qu'on a vérifié...
C'est un scan, une forme
voilà,
de...
Voilà, c'est un scan avec différents
scan
fichiers, antécédents judiciaires, l'avis... est défavorable, et donc pouvoir le licencier sans passer par l'inspection de travail, ça me semble raisonnable parce qu'il est urgent d'agir dans ce cas-là.
Dans le domaine du sport aussi, vous tirez la sonnette d'alarme. Il n'y a pas de prise de conscience, à votre avis, au niveau du danger potentiel?
Ils sont en retard. Si vous voulez, le sport est un facteur d'intégration. Donc premièrement, on ne s'est pas mis à la page. Et deuxièmement, il y a certaines fédérations qui ont été infiltrées par des mouvements salafistes. Et vous avez ensuite des fédérations qui ne regardent pas certaines associations.
Le sport de combat particulièrement.
Particulièrement certaines disciplines
fragile,
de combat.
Fragile. Il y a une fédération de sport de combat qui aurait même demandé à son directeur technique national de prendre en compte les fêtes religieuses pour établir le calendrier des compétitions.
Oui, il y a même des sports de combat qui avaient des personnes qui étaient assigné à résidence par rapport à des personnes en Syrie qui étaient dans la direction.
Il y a des femmes qui mettent un bandana pour contourner l'interdiction du voile. Préconisation, Éric Diard, vous dites jouer sur les subventions et les autorisations administratives par d'agrément, les agréments que donnent les préfets.
Je souhaite, avec mon collègue, que l'on puisse redonner les agréments aux préfets sur les fédérations. C'est-à-dire, le préfet reprend la main parce que parfois les fédérations ne regardent pas les associations parce qu'ils ont la culture du résultat, ils sont pas toujours très regardants sur leurs associations qui dépendent de leur fédération.
Vous parlez aussi longuement des transports publics dans votre rapport, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Il y a une proposition pour finir qui va faire débat. Il s'agit pour vous d'engager une réflexion sur l'introduction dans la procédure administrative, du non-contradictoire. C'est-à-dire qu'un juge administratif pourrait avoir des preuves de radicalisation sans que la défense ne les ait, lui. C'est totalement inconnu dans notre droit.
Vous savez qu'il y a une problématique des notes blanches qui ne sont pas toujours étayées parce que...
Les notes blanches,
c'est le renseignement territorial qui a des éléments secrets sur une personne qui ne veut pas les donner au procès pour ne pas griller leurs sources.
Voilà.
Et ces notes blanches, parfois la personne révoquée, donc réintégrée, nous demandons justement... Nous poussons la réflexion, nous disons on ne peut pas laisser les choses comme ça, réintégrer des personnes parce que simplement leur renseignement territorial protège ses sources.
Et voilà. Et les juges vous diront, pour ceux qui seront contre, qu'on peut difficilement condamner ou bloquer quelqu'un à l'introduction d'une profession sans que la défense puisse être totale compte tenu du fait qu'elle n'aura pas les éléments.
Sur le contentieux du renseignement, il y a une juridiction particulière.
Vous souhaitez quelle suite à votre rapport ?
Je souhaite que mes collègues députés, je souhaite que le gouvernement prenne des choses, prenne conscience s'ils l'ont fait, et prenne des éléments pour pouvoir qu'on puisse les légiférer, qu'on puisse avancer, parce que dont je rends hommage à toutes les personnes des services publics qui se battent pour garder les valeurs de la République.
Mais attention, vigilance, c'est le sens de votre rapport. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Éric Diard.
Merci à tous les deux, l'intégralité de l'entreprise.